Sans plus attendre, je vais vous partager ce que j'ai sur mon cœur pour ce matin. Vous savez, des fois, on prépare des messages, évidemment, on le fait toujours sérieusement, et on veut toujours être inspiré par le Seigneur et pas être à côté, parce que des choses à dire, on a toujours plein de choses à dire, vous savez, surtout quand on est pasteur et qu'on prêche depuis des années. Mais ce qui est important, c'est qu'est-ce que le Seigneur veut dire à son église, à notre communauté locale. Et puis des fois, on cherche, et puis c'est difficile à trouver, et puis des fois, lorsqu'on va délivrer le message, c'est un petit peu à tâtonnement parce qu'on n'a pas forcément la conviction qu'on est bien. Enfin, vous voyez, je vous raconte mes histoires de prédicateur, mais si un jour vous prêchez, vous allez comprendre ce que je veux dire. Et puis des fois, c'est juste génial parce qu'on prépare quelque chose, vraiment un fardeau qui est sur notre cœur, on sent l'onction de Dieu qui est là, et puis en plus, il y a des confirmations. Et j'ai préparé un thème, et je n'ai pas préparé de diapo parce que je me suis dit que vous alliez m'écouter attentivement. Et le thème de mon message, si je devais en dire un, c'est « Remplis-nous à nouveau, Seigneur ». Ça puisse être une prière pour nous, qu'il puisse nous remplir à nouveau de son esprit. Tout au long de la marche, des fois, le Seigneur nous touche à la conversion. Il n'y a pas de conversion sans action de l'esprit de Dieu. La parole de Dieu nous dit qu'il nous convainc de péché, de justice et de jugement. C'est là qu'arrive la conversion et l'esprit de Dieu réside en nous, mais le cas échéant dans notre marche, parce qu'on se laisse happer par les activités du monde, par les préoccupations du monde, par tout un tas de choses. C'est comme si l'esprit de Dieu, qui lui est fidèle, la présence s'estompe petit à petit. Et puis on a besoin de retrouver des fois des choses qu'on abandonne. Et c'était un peu ça que j'avais sur mon cœur. Pour moi déjà, sachez que le prédicateur, lorsqu'il parle, il se prêche d'abord toujours à lui en premier. Donc voilà, ce que je vais dire, c'est mon aspiration, c'est mon cœur, c'est ce que moi je veux vivre aussi. Et si je dois faire une prière comme vous tous, c'est « Seigneur, remplis-moi à nouveau ». Viens renouveler, viens me rafraîchir. Et je disais que des fois, on prépare sa prédication, on n'a pas forcément la conviction, on a besoin d'être encouragé, vous devez le savoir aussi en tant que prédicateur, et puis des fois ça vient, et là on a juste envie de dire merci Seigneur. Et je ne sais pas vous, mais moi je suis abonné à une application sur mon téléphone, où chaque jour, quotidiennement, il y a un verset biblique qui vient, et le verset du jour, c'était tout à fait en lien avec ce que je vais développer ce matin, où le Seigneur dit, je vais vous envoyer mon esprit, vous recevrez mon esprit, vous recevrez une puissance. Et quand j'ai vu ça ce matin, au dernier moment avant de partir, je me suis dit, merci Seigneur, tu confirmes ce que j'ai sur mon cœur. Alors pour commencer, j'aimerais vous parler de ce qu'on trouve dans la Genèse. La Genèse est le premier livre de la Bible, du Nouveau Testament, c'est le livre du commencement, où Dieu crée toutes choses par sa parole. Il parle et les choses sont créées. Juste une petite parenthèse pour vous dire que j'étais encouragé, je ne sais pas si vous l'avez déjà dit. Moi, je ne suis pas un scientifique, je ne suis pas un rat de bibliothèque non plus, comme on dit. Mais des fois, j'entends des informations qui me touchent, qui me bouleversent. Et puis, ce qu'on constate aujourd'hui, c'est que pendant longtemps, on nous a dit quand on est intelligent, quand on fait des sciences, on ne peut pas croire que Dieu existe. Et puis, lorsqu'on lit des ouvrages aujourd'hui, on constate qu'on a tendance à dire l'inverse. Notamment des livres qui sont sortis dernièrement et qui disent qu'en finalement, peu de science éloigne de Dieu, mais beaucoup de science prouve à l'évidence qu'il y a un Dieu qui gouverne notre monde. Et notamment, quelque chose qui est paru dans une revue scientifique, qui disent qu'il y a quelque chose qui régit tout notre univers, de l'infiniment petit à l'infiniment grand. Ils ont appelé ça le message. Ils disent que c'est comme s'il y a un message qui tient tout l'univers, qui coordonne un petit peu tout ce qui se fait, de l'infiniment petit à l'infiniment grand. Il y a un message qui tient l'ensemble de l'univers. Et c'est marrant. L'expression n'est pas bonne en disant « c'est marrant ». Ça m'interpelle en tout cas lorsque je vois le récit de la Genèse où Dieu parle. Il dit, il communique un message et c'est ce qui crée l'ensemble du monde. Alors quand je vois ces scientifiques qui disent ça, j'ai envie de leur dire « moi je le savais déjà ». Je le savais déjà depuis que je suis gamin parce que moi je sais comment le monde a été créé. Dieu a parlé, il a dit que la lumière soit et la lumière fut. Et ainsi de suite, je vous encourage à relire le merveilleux récit de la Genèse. Et dans la Genèse, on voit aussi que Dieu crée l'homme à son image et lui donne la capacité à son image de pouvoir choisir, de pouvoir appeler notamment les animaux. Et c'est en ça que nous sommes faits à l'image de Dieu. La capacité de créer, d'inventer, de raisonner, de parler, de communiquer. En ça, nous sommes faits à l'image de Dieu. Il crée Adam et puis vous connaissez l'histoire, il va créer Ève. Il va faire dormir Adam. Et puis, tiens, j'ai besoin d'un truc. Et il prend une côte, il va créer Ève, qui est son vis-à-vis, qui est son aide, qui est fait de la même mesure que l'homme. L'homme n'est pas supérieur, il a un rôle différent. Et la femme n'est pas inférieure, elle a un rôle différent. Elle est son vis-à-vis, la chose la plus précieuse. Elle est la chair de sa chair, le sang de son sang, et en plus, un bout de côte maintenant, voilà. Et c'est ce que nous enseigne la parole de Dieu. Il crée l'homme. Et Genèse chapitre 2, verset 4, texte commence en disant « Telle est l'histoire de ce qui est issu du ciel et de la terre. lorsqu'ils furent créés. Au temps où l'Éternel Dieu fit la terre et le ciel, n'existait encore sur terre aucun arbuste et aucune herbe des champs n'avait encore germé, car l'Éternel n'avait pas fait pleuvoir sur la terre et il n'y avait pas d'homme pour cultiver la terre. De l'eau se mit à sourdre et à irriguer toute la surface du sol. Et l'Éternel Dieu façonna l'homme avec de la poussière du sol. Il lui insuffla dans les narines le souffle de vie et l'homme devint un être vivant. Ce qui m'interpelle dans ce texte-là, c'est que Dieu parle et toute chose arrive et puis de la poussière, il crée l'homme de la poussière. Et jusqu'à présent, au moment où il le crée de la poussière, il crée un ouvrage qui est magnifique, qui est certainement beau. Adam, il devait avoir des muscles, je suis persuadé. Il n'avait pas un bide, un gros ventre avec de la graisse. Il était bien proportionné. Le péché n'avait pas encore contaminé le monde. Il était certainement beau, mais il n'était pas en vie à ce moment-là. Pour qu'il soit en vie, ce que Dieu a fait, c'est qu'il a soufflé dans ses narines. Et ce qui m'interpelle, c'est que dès le commencement, Dieu établit les règles pour chacun d'entre nous. Il nous rappelle l'essentiel de notre vie, et je dois dire pour nous chrétiens, ce que nous devons saisir, qui doit être l'essentiel pour notre marche de chrétien, c'est que sans souffle de Dieu en nous, il n'y a pas de vie possible. Adam était juste un beau gosse, pris de la poussière, mais sans vie, jusqu'à ce que Dieu souffle dans sa narine le souffle de vie. Et le texte dit clairement, à partir de ce moment-là, il devient vivant. Adam devient vivant à partir du moment où Dieu souffle dans ses narines. J'aimerais juste attirer votre attention aussi sur quelque chose qu'on peut passer, c'est que les narines, ce n'est pas quelque chose qui est gros. Ça dépend des individus, mais en règle générale, ce n'est pas des grosses narines qui peuvent capter tout ce qui est autour. Alors pourquoi je vous dis ça? Peut-être ça va vous faire sourire, mais certainement que lorsque Dieu s'est approché d'Adam, lorsqu'il a soufflé le souffle de vie dans ses narines, eh ben il s'est approché de lui. Il est venu très proche. Il l'a regardé certainement face à face. Et puis il a fait dans ses narines. Et ça nous parle d'une certaine manière, dès le début de la création du monde, que l'Esprit de Dieu se reçoit dans l'intimité. Ce n'est pas quelque chose qui est soufflé comme ça et que hop, j'essaie de choper comme ça. C'est quelque chose qui se passe dans l'intimité avec mon Dieu. L'Esprit de Dieu qui fait vivre ma vie est nécessaire et indispensable pour que toutes mes actions soient vivantes d'une certaine manière. Et ça, je le reçois dans un cœur à cœur, dans une proximité avec Dieu. Retenez l'image, elle est ce qu'elle est. Mais Dieu s'est approché d'Adam. Adam était tiré de la poussière, certainement à terre. Et Dieu s'est penché, il a soufflé dans sa narine et il est devenu vivant. Ce qu'on peut comprendre, c'est que finalement, pour nous, ça nous dit la même chose. Quelqu'un a dit que des fois, dans certaines églises, ce n'est pas le cas dans la nôtre. Dites Amen. Enfin, dites pas Amen avant de savoir ce que je vais dire, mais c'est qu'on pourrait retirer, le Seigneur pourrait retirer son esprit de l'église et il n'y aurait absolument rien qui changerait. On aurait les mêmes réunions, la même manière de prier, les mêmes actions, les mêmes manières de faire, de l'évangélisation, etc. Donc, je l'ai dit, ce n'est pas le cas pour notre église, n'est-ce pas? Mais on garde quand même la manière de faire sans l'Esprit de Dieu. Ce que j'aimerais nous dire peut-être dès le début, c'est que j'ai besoin d'être rempli à nouveau. Nous avons besoin en tant qu'église d'être rempli à nouveau. Tout ce qu'on peut faire dans notre communauté, quelles que soient les activités, si ce n'est pas conduit ou animé par l'Esprit de Dieu, ce n'est pas vivant, ou dit autrement, c'est mort. Tu pourras continuer d'aller évangéliser, faire tout un tas de choses, si ce n'est pas conduit par l'Esprit de Dieu, ça ne portera pas de fruits, c'est la mort, ce n'est pas vivant. Tu pourras chanter des chants, tu pourras lever les mains, tu pourras danser, tu pourras faire de la musique, ce que tu veux pendant le culte, si l'Esprit de Dieu n'est pas en toi, si ce n'est pas conduit par l'Esprit de Dieu, c'est une louange qui n'est pas vivante et qui est morte. Alors je crois que le Seigneur à moi m'interpelle et peut aussi nous interpeller pour cette nouvelle saison, pour se dire finalement qu'est-ce qui est important. Ce n'est évidemment pas les activités, vous l'avez compris. Ce n'est pas ce qu'on peut faire, mais c'est ce qu'on reçoit de la part du Seigneur. Et la meilleure part dont nous avons besoin, c'est d'être conduit et animé par l'Esprit de Dieu. Je prends l'image où Adam était beau, certainement. Il y avait tout un tas de caractéristiques qui étaient intéressantes, disons-nous. Mais il n'y avait pas le souffle de Dieu en lui. Les questions du roi dans l'Ancien Testament. L'Esprit de Dieu, et c'est là que tout commence, et c'est là que la vie prend. Peut-être des fois, dans nos vies d'église, on a l'impression que les choses stagnent. Peut-être les choses, on se dit des fois, et ce n'est pas juste de le dire, Ah, la louange, ce matin, ce n'était pas terrible, c'était un peu mort, etc. On peut avoir ce genre de réflexion, et ce n'est pas juste d'ailleurs de les avoir, parce que la louange, c'est jamais selon la forme, c'est selon l'expression du cœur. Et puis la louange n'est jamais faite pour nous d'ailleurs, pour nous l'assemblée, ou pour le groupe de louange, ou pour le pasteur, ou je ne sais quoi. Elle est toujours destinée à Dieu. Donc Dieu est honoré, la louange est bonne, et quelle que soit la forme. J'ai vu, moi, des fois, dans des moments où, moi, j'aime bien quand ça bouge un peu tout ça, et puis là, c'était un peu... Et puis, en étant jeune, je me disais, mais qu'est-ce qui se passe? C'est quoi? Il n'y a pas la vie dans cette église-là? Et finalement, oui, la vie était là, parce que là où Dieu règne, il y a la vie. Soyons aussi attentifs à ce qui est la forme et ce qui est le fond. Dieu nous attend sur le fond. Et à chaque fois que nous sommes réunis en son nom, il est là, nous pouvons le louer, l'adorer, quelle que soit la forme, d'une certaine manière. Alors, le plus important... c'est le souffle de Dieu en chacun de nous. S'il n'y a pas le souffle de Dieu dans notre vie personnelle, dans notre vie d'église, dans nos relations, toutes ces choses-là sont mortes, ou dit autrement, sont sans vie de l'Esprit de Dieu. J'aimerais vous proposer de prendre vos Bibles pour continuer de réfléchir à cela. Nous allons lire une parabole que vous connaissez certainement dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 25. Nous allons lire le premier, à partir du premier verset jusqu'au verset 13. Matthieu, chapitre 25, du premier verset au verset 13. Le texte commence de cette manière. « Ce jour-là, il en sera du royaume des cieux comme de 10 jeunes filles qui prirent leurs lampes et s'en allèrent à la rencontre du marié. 5 d'entre elles étaient insensées. » D'autres traductions, la version seconde parle de vierges sages et de vierges folles. Traduction Semeur est plus récente, elle parle de jeunes filles insensées et de jeunes filles sages. 5 d'entre elles étaient insensées, les 5 autres étaient avisées. Verset 3, les jeunes filles insensées prirent leurs lampes sans penser à emporter de réserve d'huile. Mais celles qui étaient avisées prirent avec leurs lampes des flacons cotonnants de l'huile. Comme le marié se faisait attendre, elles s'assoupirent toutes et finirent par céder au sommeil. À minuit, un cri retentit, « Voici l'époux, allez à sa rencontre !» Et toutes les jeunes filles se levèrent et préparèrent leurs lampes. Alors les jeunes filles insensées s'adressèrent à celles qui étaient avisées, « Donnez-nous votre huile !» car nos lampes sont en train de s'éteindre. » Mais celles-ci leur répondirent, « Non, il n'y en aurait jamais assez pour nous et pour vous. Courez plutôt vous en acheter chez le marchand. » Elles partirent en chercher, et pendant ce temps, le marié arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces, et l'on ferma la porte. Plus tard, les autres jeunes filles arrivèrent à leur tour, mais elles eurent beau crier, « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous !» Il leur répondit, « Vraiment, je vous l'assure, je ne sais pas qui vous êtes. » C'est pourquoi, ajouta Jésus, tenez-vous en éveil, car vous ne savez ni le jour, ni l'heure de ma venue. Amen. Question de plusieurs protagonistes dans l'histoire, plusieurs éléments qui doivent attirer notre attention. C'est une parabole que le Seigneur Jésus donne pour éduquer, pour enseigner d'une manière simple à l'auditoire de l'époque. Peut-être que nous, on a perdu certaines notions des éléments qui sont présentés parce que l'histoire a avancé, ce qui paraissait évident à l'époque pour l'auditeur de l'époque, ne l'est pas forcément pour nous. Alors on doit s'attarder, essayer de comprendre le contexte de l'histoire pour saisir au mieux ce que veut nous dire Jésus au travers de cette parabole. Il est question de l'époux, et je pense que chacun d'entre vous aura compris que l'époux, c'est le Christ, c'est Jésus, le oint, le Messie, celui qui revient, celui qui nous a été donné, celui qui a quitté son ciel de gloire, celui qui a mis toutes les conditions en place pour que nous puissions le rencontrer lorsqu'il reviendra. La parole de Dieu nous dit que c'est lui qui nous a choisis et que c'est lui qui nous a aimés le premier. Notre texte nous parle de la manière dont il a quitté son ciel de gloire. Il s'est incarné en homme, qu'il a pris notre place. Il est question de cet époux-là et qui revient. Vous n'êtes pas sans savoir que le Dieu que nous servons, le Jésus que nous aimons, qui est notre Sauveur, notre Seigneur, va revenir un jour. Et certainement, à la lumière des événements de ce jour, nous pouvons imaginer qu'il revient bientôt, très bientôt. Je crois que je vous l'ai déjà dit, mais lorsque Jésus dit « Voici, je reviens bientôt », le mot qui a été traduit par « bientôt », c'est « tacos », qui veut dire « un moment, subitement, les choses vont s'accélérer et bim, je reviens ». Qu'est-ce que nous voyons aujourd'hui? Des règlements partout, partout, partout. Et ce n'est pas juste notre vous avez compris, ce n'est pas juste en France, c'est partout dans le monde. Les choses s'accélèrent, des règlements climatiques qui nous font vivre des choses qu'on n'a jamais vécues jusqu'à présent. Et je crois que le Seigneur, déjà là, nous interpelle en nous disant « Je reviens bientôt » et peut-être plus tôt que ce que tu peux imaginer. C'est le cas d'un point de vue global pour nous croyants, pour nous humains de la terre. Mais à titre individuel, j'aime le préciser aussi, nous ne savons jamais de quoi est fait demain. Nous pouvons être jeunes, beaux, avoir de belles réussites sociales, etc. Et puis, on pense que la mort nous entraînera plus tard. Et finalement, des fois, c'est juste le moment que Dieu a choisi pour qu'on puisse le rencontrer. Je ne vous parlerai pas de mes histoires personnelles, de ce que j'ai vécu avec mon père, de ce que j'ai vécu aussi personnellement. Vous avez vu la belle cicatrice que j'ai là. Et donc, le Seigneur a été un Dieu de grâce. Mais du jour au lendemain, j'aurais pu passer de vie à trépas. Et je n'étais pas prêt à cette époque-là. Mais Dieu est un Dieu de grâce. Et il a fait que je puisse me préparer maintenant pour aller à sa rencontre. Mais en tout cas, Jésus reviendra. Ne faisons pas comme si ce n'était pas le cas. Ne faisons pas comme si on allait vivre éternellement. Julien, on sait qu'on ne va pas vivre éternellement. Oui, mais dans ta manière de vivre, tu fais comme si, finalement. Comme si tu n'étais pas prêt. Comme s'il n'y aurait pas à un moment donné Dieu qui viendrait, qui te demanderait des comptes. Sachons-le, ce n'est pas pour faire peur ni pour manipuler, mais c'est une réalité. Je crois que des fois, dans nos églises, on ne prend pas le temps de rappeler cette réalité. Que Jésus revient et il revient bientôt. Alors l'époux, c'est lui. C'est Jésus qu'il revient. Il ne revient pas cette fois-ci comme un enfant. Il ne revient pas d'une manière vulnérable. Il revient comme le roi des rois qu'il est. Il vient demander des comptes. Il vient encourager. Il vient emmener ceux qui sont au bénéfice de ce sacrifice. Et je crois que c'est la majorité de chacun d'entre nous. Amen. On pense souvent que le jour où Jésus reviendra, moi je me disais ça quand j'étais gamin, j'avais ma construction personnelle évidemment, et puis on intègre des choses et on se dit, moi quand j'étais jeune, je vous ai déjà raconté mon histoire, et puis finalement je voulais profiter de plein de choses, et puis dans le doute je me disais, bon puis si jamais tout ça c'est vrai, si Dieu existe et qu'il revient, bon bah je sentirai bien au moment où il reviendra, quoi. Puis je remettrai ma vie en règle, j'arrêterai telle chose, etc. Il y en a qui ont pensé comme moi un jour. Non, bah, il n'y a que moi, du coup. Ouais. Et donc, moi, voilà, vous pourrez me jeter des pierres si vous voulez, mais moi, j'ai pensé ça. Et puis, finalement, je me suis rendu compte que soudainement, c'est soudainement, et qu'on n'a pas le temps de se préparer. Et que le texte nous parle de. C'est à minuit où tout le monde dort, où on n'est pas sur le qui-vive. Enfin, normalement, à minuit, tout le monde dort. Je sais qu'il y en a qui ne dorment pas bien, mais c'est cette symbolique-là. Et c'est à ce moment-là où personne n'est préparé, où Jésus revient. Et c'est souvent le cas dans notre vie. On se dit, j'aurai le temps de me préparer, j'aurai le temps de régler telle et telle chose. Et puis finalement, on n'a pas tellement le temps. Alors les autres éléments, c'est de ce texte, il est question de lampes. Ces jeunes femmes, vierges, selon la traduction Louis II, ces jeunes femmes, sages, avisées, et puis les autres, insouciantes, elles ont des lampes. Et c'est une symbolique, la lampe. La lampe, c'est ce qui attire l'attention. C'est ce qu'on voit lorsqu'on est dans le noir. Vous êtes d'accord ? C'est, d'une certaine manière, le témoignage qui est rendu. Lorsque les gens nous regardent, qu'est-ce qu'ils voient en voyant notre lampe en tant qu'église du Colombier ? Je bénis le Seigneur pour les événements qui ont eu lieu dernièrement, notamment le culte d'installation, où si vous étiez là, le préfet a pu témoigner. Je n'ai jamais vu ça de ma vie, c'était juste génial. Il a pu témoigner de l'action de l'église, l'action de Bernard et de Daniel. Je me suis dit, mais quel témoignage ! Et si je reprends, si je fais le rapprochement par rapport à notre histoire, il a pu voir une lampe qui brillait et qui brillait bien. Et comme une référence dans la vie, on peut s'être encouragé pour ça. J'ai tellement rarement vu ça que des politiques ou que des gens établis dans la société rendent un témoignage favorable de l'Église. Des fois, ils ne savent même pas qu'on existe. Mais là, à Angers, réjouissons-nous parce que non seulement ils savent qu'on existe, ils ont un bon témoignage à rendre de nous. Et ça, merci Seigneur. C'est grâce à chacun d'entre nous, chacun d'entre vous, parce que moi je viens juste de débarquer, alors je ne vais pas m'accaparer ce que votre travail, c'est l'action aussi de Bernard et Daniel depuis des années, et surtout l'action du Seigneur. En tout cas, la lampe brille et elle brille bien. La lampe dans cette histoire, c'est ce qui attire l'attention. Je disais, cette parabole, elle est donnée dans un contexte qui peut-être nous échappe et qui n'est pas dans nos coutumes habituelles. Mais à l'époque, dans les pays d'Orient, lorsque quelqu'un voulait se marier, il y avait toute une cérémonie qui était faite comme ça, et puis il y avait des jeunes filles qui étaient avec des lampes. Aujourd'hui, on va sur Mythic ou je ne sais quelle application, en disant « Ouh, je suis là, viens me voir ». Bon, à l'époque, c'était avec des lampes. Ils descendaient le village avec des lampes, et l'époux qui arrivait, il reconnaissait la lueur de la lampe de sa promise. Mais il fallait une lampe pour que ce soit visible. Alors nous, évidemment, on lit ça, on ne comprend pas tellement, mais finalement, quand on remet dans le contexte, on comprend ce qui se passe. L'époux descendait dans le village, il arrivait, à un moment où personne ne l'attend, et puis il vient chercher sa promise, il vient chercher sa belle, et il la reconnaissait parce qu'elle avait une lumière allumée, il la reconnaissait à la lueur de sa lampe. Alors dans ce texte, il est question de la lampe, Il est question de l'huile. Et l'huile, si vous avez une culture biblique, vous savez ce que ça représente. C'est la symbolique de l'Esprit de Dieu, de l'onction de Dieu sur ma vie, de la plénitude de l'Esprit de Dieu dans ce texte. Il est question de l'huile, il est question aussi du vase. Le vase, nous pouvons comprendre ce que ça représente pour nous dans nos vies. Le vase, c'est le contenant, le récipient. C'est ce qui va être rempli. Et le vase, dans notre culture d'église, on pourrait dire, c'est notre cœur. C'est là où l'huile va pouvoir venir combler les moindres aspects, les moindres aspérités. Le vase, c'est mon cœur. Dans cette histoire, nous comprenons la symbolique. Les questions de minuit, j'en ai parlé tout à l'heure, c'est le moment où personne ne s'y attend. Il est question aussi de la salle des noces. L'époux vient chercher son épouse et puis il emmène que celle dont il a reconnu la lumière, il a reconnu la luminosité, ça l'a attiré et il l'emmène dans la salle des noces. Et la salle des noces, évidemment, c'est la symbolique du paradis, dit d'une certaine manière, le séjour auprès de Dieu, la plénitude céleste, c'est le meilleur endroit qui a jamais existé jusqu'à présent. Apocalypse chapitre 21, versets 3 et 4 nous dit « Et j'entendis une voix forte venant du trône qui disait « Voici la tente de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux, ils seront ses peuples et lui, Dieu avec eux, sera leur Dieu. Il essuiera toutes larmes de leurs yeux, la mort ne sera plus, et il n'y aura plus ni deuil, ni plainte, ni souffrance, car ce qui était autrefois a définitivement disparu. » Les questions de la salle des noces, cet endroit où l'époux va venir nous chercher, où nous serons dans la plénitude. Plus de peine, plus de douleur, plus de difficultés. Vous avez déjà vécu des bons moments, des fois, dans votre vie? Ah, vous pouvez dire oui, hein, oui, ça arrive quand même. Oui. J'aurais dit, est-ce que vous avez vécu des moments? Tout le monde a dit, ah ouais, les mauvais moments. Est-ce que vous avez vécu des super bons moments? Moi, je me souviens quand mon fils aîné est né, c'était le premier. C'était génial. Dès que je croisais quelqu'un, je vais lui dire, oh, tu sais quoi, je viens d'être papa. C'était une joie immense. Et puis maintenant, il est à l'adolescence. Alors je dis, je plaisante évidemment, j'aime mon fils, il n'y a pas de souci. Il peut être pénible quand même, mais je suis toujours très reconnaissant au Seigneur de nous l'avoir confié, en tout cas. Et je me souviens, dans la joie, j'en parlais à tout le monde. Pensez à ces moments de joie. Dites-vous que la salle des noces, c'est ces moments de joie pour l'éternité, sans aucune pensée qui vient parasiter quoi que ce soit, sans souffrance, sans larmes, sans difficulté, la plénitude totale dans l'amour de Dieu, dans la présence de Dieu. Le texte nous parle donc de jeunes femmes, de vierges, folles, sages, jeunes filles, sensées, insensées. Et ce qu'on remarque, c'est qu'il y en a cinq d'un côté, cinq de l'autre, mais elles ont quand même, si je peux dire, la même qualification. Dit autrement, il n'y a pas cinq comédiennes et cinq sportives. Il n'y a pas cinq politiciennes et cinq je ne sais pas quoi. C'est toutes des jeunes filles identifiées de la même manière. Ce que je comprends, c'est que dans la parabole, avant l'échéance de l'histoire, on ne fait pas de différence entre elles. On se dit, bah voilà, c'est des jeunes filles. Il n'y a pas de différence. On peut imaginer, d'ailleurs c'est le cas, à l'époque, elles étaient certainement habillées de la même manière, en tout cas préparée pour rencontrer l'époux normalement. Mais tout extérieurement, physiquement, montrait que c'était des jeunes filles. Il n'y avait pas de différence entre elles. Notez bien ça, c'est très important. Ce qui fait la différence des fois aussi dans nos vies, ce n'est pas à l'extérieur. Parce que moi, quand je vois chacun d'entre vous, je vois des chrétiens. Je vois des gens qui aiment le Seigneur, chrétiens au sens qu'ils ont choisi de suivre Christ, des chrétiens, chrétiens, qui veulent marcher dans la même direction que le Christ, qui veulent aimer de la même manière, etc., etc. Moi, c'est ce que je vois avec mes yeux d'homme. Déjà, je suis un gars, et les gars, il paraît que des fois, on n'est pas trop finaux pour voir les détails. Les femmes sont plus fortes que nous pour ça. Mais de ce que je vois que l'aspect extérieur et que ce que vous pouvez me dire. Mais l'intérieur de votre être, qui le connaît? En tout cas pas moi. Et donc lorsque je vous vois tous, je vois que des chrétiens, que des gens qui ont envie de servir le Seigneur, et c'est génial. Mais qu'est-ce qu'il en est réellement? Dieu seul sait. La parole du Seigneur nous fait froid dans le dos. Lorsque certains diront, mais j'ai chassé les démons en ton nom, j'ai fait telle et telle et telle chose, j'étais à l'église tous les dimanches, et même le pasteur, quand il me voyait, il disait que j'étais chrétien. Et Jésus dit, mais Je ne vous ai jamais connu. Je ne vous ai jamais connu. Alors là, ok, on voit que des jeunes femmes, on ne voit que des vierges, pour reprendre l'expression. Évidemment, je trouve que cette expression n'est plus adaptée à notre époque, mais vous prenez les versions, il est question de vierges folles et de vierges sages, en tout cas dans le sens qu'elles se préparent à rencontrer l'époux, et il n'y a pas de différence entre elles. C'est toutes les mêmes. L'aspect extérieur, lorsqu'on les voit, on dit ça, c'est des jeunes filles qui se préparent à rencontrer l'époux. Les deux catégories de femmes, de jeunes femmes, s'endorment toutes les deux. Et ça, ça nous parle des fois de ceux qui disent « Moi, j'attends le retour du Seigneur et t'inquiète pas que je vais me préparer. » Et puis, il n'y a pas un seul moment où je vais me relâcher et quoi qu'il arrive, je serai prêt. Mais finalement, on remarque que même dans notre marche de chrétien, le cas échéant, on peut s'endormir. On peut perdre la passion, on peut tout simplement perdre du zèle, on peut s'installer dans l'habitude, dans la routine, etc. Et puis on peut s'endormir. On peut s'endormir aussi parce qu'on est en paix. Et c'est vrai que moi, souvent, quand je suis en paix, je dors bien. Il suffit que je m'installe un petit peu le dimanche après-midi sur mon canapé. Je me dis, j'ai passé un bon moment avec le Seigneur ce matin, avec mes frères et sœurs. Et puis 2 minutes après, vous savez comment je suis ? Je dors en paix. Quand les circonstances sont beaucoup compliquées, que le stress est là, je dors moins bien. Je pense que c'est le cas pour chacun d'entre nous. Et puis, il y a des gens qui dorment, et je dirais, c'est pas qu'ils sont en paix ou qu'ils sont stressés, c'est juste qu'ils sont insouciants. Ou dit autrement, ils s'en foutent. Ils ont leur vie, puis il y a des gens qui sont comme ça. Voilà. Ils s'en moquent et ils dorment. En tout cas, ce que nous dit ce texte, cette parabole, c'est que ceux qui sont préparés, ceux qui ne sont pas préparés, ils s'endorment tous de toute façon. Et c'est à ce moment-là où l'époux choisit de revenir. Et ce qui fait la différence, c'est si je suis prêt ou si je ne suis pas prêt. Si je suis en paix ou si, peu importe en tout cas pourquoi je dors, mais à un moment donné, on va tous dormir et le Seigneur va revenir. Et qu'est-ce qui se passe à ce moment-là ? Le moment où le Seigneur, l'époux revient, c'est ce qui va dévoiler les cœurs. Vous vous souvenez, le thème de mon message, je ne vous ai pas perdu, je construis pour que vous puissiez saisir ce que je veux dire. Je vous ai parlé d'être rempli à nouveau. Je vous ai parlé d'Adam qui était mort jusqu'à ce que Dieu souffle son esprit en lui. Et là, on retrouve exactement la même chose. Il y a ces jeunes femmes qui sont là. On ne fait pas de différence entre elles jusqu'à ce que le moment arrive où l'époux arrive et on voit qu'il y en a qui ne sont pas prêtes, que d'autres sont prêtes. Ce qui fait la différence, c'est quoi ? Ah là, vous avez dormi, attention. Ce qui fait la différence, c'est qu'il y en a qui ont de l'huile. Symbole de l'action de Dieu, de la présence de l'Esprit de Dieu en elles, elles peuvent donc briller et allumer leurs lampes. Et les autres, non. Les autres n'ont pas d'huile. Pourtant, elles sont censées se préparer aussi. Et lorsqu'on les voit à l'extérieur, elles ont la même attitude, elles se sont préparées de la même manière. Mais il n'y a pas d'huile. Je reviens donc à mon introduction pour nous rappeler que ce qui fait la différence, c'est l'huile. Et l'huile, c'est la présence de Dieu en nous, la conduite de l'Esprit de Dieu en nous. Et s'il n'y a pas ça dans nos vies, si nous ne cultivons pas le fait d'avoir cette huile présente dans nos vases, le cas échéant, Jésus pourra revenir, puis dira « Mais où vous êtes ? Où est votre lumière ? Je ne vous vois pas. » L'huile est le plus important, et c'est marrant de voir les réactions qui peuvent aussi nous parler. C'est que lorsque ces jeunes femmes se rendent compte qu'ils n'ont pas d'huile, qu'est-ce qu'elles font automatiquement ? « donne-moi de l'huile, toi ! Passe-moi un petit peu d'huile ! » Passe-moi un petit peu de ce que tu as reçu. Donne-moi un petit peu de ton onction, de la présence de l'Esprit de Dieu en toi. Donne-moi un petit peu. Qu'est-ce que disent les autres ? Mais non, tu n'as rien compris. C'est quelque chose qui est personnel. Et si je t'en donne, j'en aurai pas assez pour moi. Alors va en acheter chez le marchand. On y revient dans quelques instants. Ce qu'on comprend dans cette parabole, c'est que l'huile de l'Esprit de Dieu que veut nous donner le Seigneur, c'est quelque chose qui est personnel. C'est quelque chose qui se trouve dans la présence de Dieu. Et je reviens à la symbolique avec Adam. Vous vous souvenez tout à l'heure au début. C'est quelque chose qui se gagne à ce moment-là. Personne ne peut te donner de l'huile. Le Saint-Esprit seul le peut. Et c'est quelque chose qui demande du temps. Ce n'est pas quelque chose qu'on obtient à la va-vite comme ça. Vous savez, dans nos églises, on fonctionne un peu comme ça des fois. Alors nous, non, on est une église parfaite, je le sais maintenant. Mais le moindre truc, Seigneur intervient, Seigneur donne un petit peu d'huile d'onction, un petit peu de machin comme ça, et c'est un peu le distributeur automatique. Il y en a déjà qui ont déjà essayé de faire ça ? Si vous ne l'avez pas fait, moi j'ai essayé de le faire, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Parce que Dieu attend de nous qu'on paye un prix pour recevoir ce qu'il veut nous donner. Il est un Dieu de grâce, mais il y a un certain prix que nous devons payer dans notre marche. Parce que vous savez, on va marcher, on va être persévérant dans les choses que nous estimons avoir de la valeur. C'est vrai ou pas ? Les choses où on pense que ça n'a pas de valeur, on fait ça vite fait. Et des fois, avec Dieu, on agit de la même manière. Dieu bénit, Dieu fait ci, Dieu fait ça. Et non seulement ça ne marche pas, mais ce n'est pas ce que Dieu veut. Il ne veut pas qu'on le consomme. Il veut qu'on ait une relation avec lui. Dieu n'est pas le Dieu de la consommation. Il est un Dieu de relation. Et la relation, vous savez, ça prend du temps. On parlait tout à l'heure de Sharon et de Louis, qui auront bien des défis dans leur union, et ils vont constater, comme tout un chacun, que de vivre ensemble, ça demande du travail, ça demande de la persévérance, ça demande du renoncement pour bien vivre ensemble, pour avoir une bonne relation. Il y a un prix à payer des deux côtés, des renoncements. Et avec notre Dieu, lui ne renoncera pas à ce qu'il est parce qu'il est parfait. Mais nous devrons apprendre à renoncer, à voir les choses autrement. Et à ce moment-là, le Seigneur, dans sa relation, donnera l'onction de son esprit. Ce que nous dit cette parabole, c'est qu'il faut arrêter les raccourcis. Et moi, j'aime le Seigneur comme tout un chacun. Je crois avoir reçu du Seigneur une onction comme tout un chacun. Mais ce que j'ai reçu, on en a déjà parlé la dernière fois, je l'ai reçu pour moi. Et ce que j'ai reçu pour moi, je ne peux pas vous le donner, tout simplement. Si le Seigneur veut vous oindre de son huile, et je le crois, ça va être à vous d'aller le chercher auprès de lui et de lui seul. Je trouve intéressant la réaction de ces femmes avisées qui disent « Bah non, moi je ne peux pas t'en donner parce que je ne vais pas en avoir assez pour moi. » Ça, c'est vrai. Allez donc chez le marchand. Alors j'ai relu plusieurs fois, je suis marchand, il y a des marchands d'huile, etc. Oui, il y a des marchands d'huile, je peux vous donner des marques, par exemple. Mais si on revient à notre symbolique, marchand d'huile, marchand de l'Esprit de Dieu, de l'onction du Seigneur, qu'est-ce que ça veut dire ? Est-ce que le Seigneur ne veut pas nous dire quelque chose au travers de cela ? En tout cas, elles n'y vont pas. Et je me suis posé la question si nous, des fois, dans nos églises, nous, en tant que jeunes femmes avisées, n'est-ce pas ? Ça me fait drôle de dire ça pour moi, mais en tout cas, personne avisée qui aime le Seigneur et qui se prépare. Et puis nous qui sommes là, je pense qu'on est à une époque où on court à droite et à gauche pour acheter de l'huile d'onction. Aujourd'hui, avec Internet, c'est facile. Je vais aller voir tel prédicateur, ah, il est tellement loin, il est tellement meilleur que les autres, etc. Et quand il parle, il y a du feu qui sort de sa bouche, etc. Je vais aller recevoir l'onction. Je vais aller en acheter un petit peu d'huile auprès de lui. On court à droite, à gauche, allez vers lui, il est tellement loin, il y a tellement d'onction, vous allez voir. Et c'est comme des choses qui nous trompent. Et je crois qu'au travers de cette parabole, je ne sais pas pourquoi elles réagissent comme ça, ces jeunes femmes avisées. Mais en tout cas, ce qu'elles disent, je trouve que ça ne tient pas la route. Qui d'autre que Dieu peut nous donner l'huile dont nous avons besoin ? Alors peut-être que des fois, je sais que vous êtes sérieux, vous êtes géniaux, mais on peut courir après des hommes, après des marchands d'huile. Mais tout ça, c'est en vain et c'est une illusion. J'ai entendu des gens, souvent, « Ah, j'ai tel besoin, et dans mon église, ça ne marche pas, c'est parce qu'ils dorment, c'est parce que, etc. » J'aimerais juste vous dire que le Seigneur entend ta prière autant que la mienne. Que tu sois converti depuis 2 jours, ou 3 jours, ou 10 ans, ou 15 ans, que tu cries quand tu pries, ou que tu fasses tout un tas de cinéma, le Seigneur entend de la même manière ta prière. Et c'est toujours lui qui répond en fonction de ce qu'il a prévu. Et peut-être que des fois, lorsque nous prions, et que tu as l'impression que ça ne marche pas, c'est juste que le Seigneur veut t'apprendre autre chose. Comme Paul, que nous avons lu en introduction, j'ai prié à 3 reprises pour qu'il me guérisse, et je ne suis pas guéri. Finalement, il m'a dit ma grâce est suffisante. J'aimerais juste que nous puissions réaliser cela, c'est que le Dieu que nous servons, c'est le Dieu qui agit dans nos vies et à chaque fois qu'on prie. Et que cette huile qu'il veut nous donner, elle se reçoit auprès de lui et de lui uniquement. Et aucun homme, ni moi, ni qui que ce soit, ne peut vous vendre de l'huile d'une certaine manière. Ce que nous devons comprendre aussi, c'est qu'elle est gratuite. Elle s'acquiert dans une relation de grâce que le Seigneur nous donne. Mais ce n'est pas parce que j'ai des mérites que je reçois plus. Dieu donne parce qu'il est un Dieu de grâce et je le découvre quand je suis dans sa présence. Alors voilà ce que peut nous dire aussi ce texte. On constate que ces femmes, ces jeunes femmes, Ce qui fait la différence, c'est l'huile. Certaines en ont et d'autres n'en ont pas. Et peut-être que lorsque nous nous parlons, lorsque nous nous regardons ce matin, je ne connais pas vos cœurs. Et puis en plus, moi, je viens de débarquer, donc je ne vous connais pas tout court pour la majorité d'entre vous. Je ne sais pas ce que vous pouvez vivre, mais lorsque je vois des frères et sœurs. En tout cas, je projette cette image sur vous. Nous sommes là ensemble pour louer le Seigneur. Mais lui sait mieux que moi ce qu'il y a dans vos cœurs et il sait mieux que moi ce qu'il y a même dans mon cœur. Je peux m'illusionner des fois. Je peux dire j'aime Dieu, je sers Dieu et être à des années-lumière de lui. Ce qui fait la différence, c'est si son esprit me conduit ou pas. Et j'aimerais juste faire une petite parenthèse aussi pour dire que être conduit par l'Esprit de Dieu, ce n'est pas forcément vivre les dons. Parce que la question souvent est posée, est-ce que je vis par l'Esprit, est-ce que je suis baptisé par le Saint-Esprit, etc. parce que je n'ai pas les dons, je ne parle pas en langue, je ne donne pas de prophétie, et ce genre de choses-là. Moi, ce que je crois, c'est qu'à la conversion, l'Esprit de Dieu vient en nous et que les dons sont le reflet de ma relation avec lui. Mais les dons peuvent être bloqués pour X ou Y raisons. Parce que je raisonne, parce que j'ai des blocages, etc. Et ma responsabilité, c'est à un moment donné de pouvoir les débloquer. Mais le fait de ne pas pratiquer les dons n'est pas forcément gage que l'Esprit de Dieu n'est pas en moi, comme le fait de pratiquer des dons, parce que Dieu ne se repent pas de ses dons, est gage forcément de la présence de l'Esprit de Dieu. Le roi Saül lui-même continue de prophétiser alors que Dieu l'a rejeté. Il y a plein d'exemples comme ça. Et donc, quand je parle d'être conduit par l'Esprit de Dieu, je ne parle pas de parler fort, de crier fort, de parler en langue ou de faire des choses comme ça. Quelqu'un qui est animé par l'Esprit de Dieu, voyez-vous, la vie règne. La condamnation n'est pas dans sa bouche, la malédiction n'est pas dans sa bouche. C'est l'Esprit de Dieu qui règne en lui. Alors, je crois que notre communauté, et pas parce que c'est nous qu'on est moins bien que les autres, je pense que finalement, nous sommes dans des temps où Dieu veut rafraîchir son Église. D'où le thème de mon message, remplis-nous à nouveau. Nous voulons servir le Seigneur, nous sommes des fois plein d'illusions, nous sommes des fois dans, si j'ose dire, nos délires à nous, nos activités. Et le Seigneur est celui qui peut-être nous interpelle en disant, ok, t'as le costume, t'as la panoplie, à l'extérieur, on voit bien qu'il y a quelque chose de particulier, mais moi je connais l'intérieur. Et je sais que le cas échéant, lorsque je reviens, ou même aujourd'hui, quand tu viens me louer, ou lorsque nous sommes ensemble, il manque quelque chose. Et ce qu'il manque, c'est la vie de l'Esprit, tout simplement. Et je redis que la vie de l'Esprit, ce n'est pas crier, ce n'est pas parler en langue. C'est la présence de Dieu en moi. Voyons tellement, des fois, dans nos communautés, lorsqu'il faut, c'est le moment de la louange, le moment de louer le Seigneur. Et ça m'est tellement arrivé de fois dans ma vie où je suis sec, je n'ai rien à dire. Où le Seigneur est là, oui, là où deux ou trois sont réunis en mon nom, le Seigneur dit, je suis là, je crois, Seigneur, mais je suis sec. C'est comme s'il n'y a pas de vie. Et puis, il y a le gars qui s'est préparé, qui est devant, qui, lui, il est en feu, etc. Et j'aimerais tant pouvoir le rejoindre, mais je constate que j'ai plus d'huile, que je me suis asséché, qu'il n'y a rien de vivant en moi, en fait. Je connais les codes, je connais les mots, je connais ce qu'il faut faire pour mettre en place, mais je suis mort, finalement, je n'ai rien à donner. Évidemment, je disais tout à l'heure que nos temps de louange ne doivent pas être conditionné, on ne doit pas être attentif aux apparences encore. Parce que moi, j'ai vu des gens chanter super bien, crier, faire tout un tas de trucs dans la louange, mais l'Esprit de Dieu n'était pas là. Et j'ai vu l'inverse. J'ai vu une fois, lorsque j'étais jeune, il y a quelques années, j'étais allé dans une église avec plein de préjugés. Vous avez des préjugés aussi ? Vous priez pour moi, parce que j'en ai, souvent. Et puis je vais là, on était en vacances, et puis on n'avait pas d'autre choix que d'aller dans cette église-là dont je connaissais la dénomination. Et puis moi, dans ma tête, je me disais, ah ben alors eux, vous voyez, plein d'arrogance, plein de prétentions. Parce que moi, évidemment, j'avais tout compris. Je savais comment il fallait louer le Seigneur, etc. Et puis le culte a commencé. Et puis effectivement, le temps de louange, c'était pas fun, entre guillemets. C'était à l'ancienne, il y en a qui ont connu ça. Nous allons chanter ce matin le cantique 1260, des ailes de la foi. Entre parenthèses, il y a des très beaux cantiques sur les ailes de la foi. Discuté avec Gérard la dernière fois. On pourrait faire des prédications sur beaucoup de cantiques des ailes de la foi alors que des chants d'aujourd'hui. Bon, bref, ferme la parenthèse. Et puis le culte commence. Donc ouais, la forme, c'était, comme on dit, c'était pas génial pour moi en tout cas. C'était pas dans mes codes. Et puis finalement, le Seigneur a fait son œuvre pendant le culte. Et puis le frère a commencé à annoncer la parole. Je crois que j'ai jamais entendu un si beau message de ma vie. Le Seigneur m'a inondé de sa présence. Il m'a dit, petit, insolent, arrogant, prétentieux, voilà ce que moi je peux faire. La forme n'est pas importante. Ce qui compte, c'est le fond. Ce qui compte, c'est la présence de Dieu en moi. Ce qui compte, ce n'est pas la forme, comment je m'habille, comment je prie, comment j'agis. Ce qui compte, c'est la présence de l'Esprit de Dieu en moi. Alors, face à ça, face à cette interpellation, chacun de nous, ce que nous voulons nous dire, c'est Seigneur, remplis-moi à nouveau. Je ne veux pas faire semblant, je ne veux pas avoir juste l'habit de la jeune fille, de la jeune femme. Je veux vivre et que ma lampe brille réellement avec l'huile que tu me donneras. Je termine en donnant ce texte que vous connaissez d'Ézéchiel. Il me semblait tellement à propos et je me suis posé la question si même il n'était pas prophétique pour nous, Église d'aujourd'hui, Église du Colombier. Ce texte-là, vous savez, c'est ce fameux passage où il est dans la vallée avec des ossements partout. Ceux qui manquent d'inspiration des fois pour faire des films, je pense qu'ils pourraient lire les écrits d'Ézéchiel et ça paraît complètement dingue. En tout cas, évidemment, c'est symbolique et c'est prophétique. Et puis le texte nous dit qu'il y a des ossements desséchés partout. Vous comprenez ce que ça veut dire ? Il y a des cadavres, il n'y a pas de vie, ça pue la mort, etc. Et puis voilà que le prophète est là et Dieu lui dit « prophétise ». Voilà, ça devient complètement barré là. Ézéchiel chapitre 37, verset 1. La main de l'Éternel se posa sur moi, et l'Éternel m'emmena par son esprit et me déposa au milieu d'une vallée pleine d'ossements. Il me fit promener sur eux, en tous sens, et je constatai que ces ossements étaient innombrables sur toute l'étendue de la vallée, qu'ils étaient totalement desséchés. Il me demanda, « Fils d'homme, crois-tu que ces ossements revivront ?» Je répondis, « Toi seul, Seigneur Éternel, tu le sais. » Puis il me dit, « Prophétise sur ces ossements, là, et dis-leur. Ossements desséchés, écoutez ce que dit l'Éternel. » Voici ce que vous déclare le Seigneur l'Éternel. Je vais faire venir en vous l'Esprit et vous revivrez. Voici ce que dit le Seigneur Éternel. Je vais faire venir sur vous l'Esprit et vous revivrez. Je crois de tout mon cœur, en tout cas, que c'est prophétique ce texte-là pour moi. Pas que je sois mort, pas que je sois complètement desséché et qu'il n'y ait plus que mes os qui gissent, mais je crois que le Seigneur veut rafraîchir mon esprit. Qui veut rafraîchir ma vie, qui veut rafraîchir mon service. Et je crois qu'il veut le faire pour chacun d'entre nous. Et quand on dit ça, on ne se sent pas concerné, mais qu'il veut le faire pour notre communauté. Peu importe ce qu'il y a eu avant, ce qui compte, c'est ce que Dieu veut faire aujourd'hui. Alors prophétise là où il y a la mort, prophétise la vie et rappelle-toi ce que Dieu veut faire. Parce que le Dieu que nous servons ne veut pas nous laisser dans la mort. Il veut nous laisser dans la vie, dans la plénitude de son esprit. Prophétise et voici ce que tu peux déclarer. C'est que l'Éternel va souffler. L'Éternel va souffler le souffle de vie et vous revivrez. Alors peut-être que ce matin, il y en a qui se disent « Mais moi je suis sec et finalement je me demande si je ne suis pas complètement en train de mourir. » Bonne nouvelle, le Seigneur veut te faire revivre. Le Seigneur veut te faire rafraîchir, te redonner peut-être ce que tu as abandonné à un moment donné. Peut-être que tu as oublié, tu as laissé dans un coin et tu dis « Maintenant je vais à l'église, je n'ai plus la passion, je n'ai plus la vie comme avant. » Prophétise sur les ossements desséchés. Prophétise sur ce qui est mort en toi et déclare que le Seigneur va souffler et que la vie va revenir. Amen. J'aimerais vous proposer qu'on puisse prier. Je suis désolé, sentez-vous libre. J'ai vu qu'il est midi 4. Depuis déjà 10 minutes, il y a une horloge qui tourne dans mon cerveau et qui dit « Julien, ta bouche, tais-toi ». Mais je crois que nous devons répondre. Nous n'allons pas conditionner l'action du Seigneur par notre emploi du temps. Que chacun se sente libre, évidemment, vous avez des impératifs, quelqu'un vous attend, un bus à prendre ou je ne sais quoi, sortez, il n'y a pas de souci. Que chacun se sente libre, il n'y aura aucun jugement de qui que ce soit. Faites-vous selon ce que vous avez la possibilité et sentez-vous libre. Mais si vous êtes là et que le Seigneur vous parle et que, comme moi, vous êtes là à vous dire « Mais moi, j'ai besoin d'être rempli à nouveau. Moi, je ne peux rien pour vous. » Parce que moi j'ai besoin du Seigneur aussi. Si vous faites cette prière, je la fais aussi pour moi. Mais si vous êtes dans cette attitude de dire, moi Seigneur, il faut que tu me remplisses. Il faut que je retrouve la vie parce que je suis sec, parce que je suis mort, parce que j'ai plus l'énergie et tout un tas de choses, que nous puissions ensemble prier, faire cette requête devant Dieu, ensemble dire, remplis-moi à nouveau. Remplis-moi à nouveau, souffle à nouveau sur moi, que la vie jaillisse à nouveau. Que la mort disparaisse, que tout ce qui est sec en moi, toute la tiédeur, toute la mollesse de ma vie de chrétien puisse vivre à nouveau et que je puisse retrouver peut-être ce que j'ai perdu il y a quelques années. Alors, si vous êtes OK de faire cette prière, nous allons chanter ensemble. Nous allons chanter ce chant qui dit justement « Remplis-nous à nouveau ». Nous avons soif de plus. Esprit de Dieu, nous t'invoquons, nous t'implorons de pouvoir agir. Si vous êtes à votre place, levez-vous, mettez-vous dans la position où vous êtes le mieux pour devoir demander au Seigneur. Et j'aimerais qu'on puisse prier ensemble et recevoir ce que le Seigneur veut pouvoir aussi nous donner. Alléluia. Père éternel, merci pour ta présence. Merci pour l'action de ton esprit. Merci parce que tu agis, Seigneur, au moment où tu as décidé, mais au moment où nous prions, tu as commencé à agir, Père éternel. Tu es celui qui ébranle les cieux. Tu es celui qui déjà réduit toute opposition à ton action ce matin. Nous déclarons que tu es souverain et que nul ne peut s'opposer à ce que tu veux faire ce matin, ni nos raisonnements, ni notre incrédulité. Seigneur, ce matin, nous sommes là ensemble et nous disons, Seigneur, remplis-nous à nouveau. Rafraîchis-nous, rafraîchis notre esprit, rafraîchis notre être. Seigneur, dans ta grâce, viens faire ton œuvre en chacun de nous. Nous avons soif de plus, Seigneur, et nous voulons, le cas échéant, que notre lampe continue de briller. Nous ne voulons plus faire les choses par habitude ou par tradition. Nous ne voulons pas être des chrétiens de nom, mais nous voulons être des chrétiens de valeur et de fond, Père éternel. Merci pour l'action de ton esprit ce matin. Nous ne voulons pas nous fier aux apparences. Vous ne voulez pas nous faire rentrer dans du cinéma ou je ne sais quoi, mais dans l'authenticité de ce que tu veux faire. Saint-Esprit, merci. Merci de nous remplir ce matin. Tu dis, demandez et vous recevrez, Père éternel. Nous recevons ce matin. Croyons avec foi qu'au moment où nous prions, tu es là et tu déposes ce dont nous avons besoin. Merci, Saint-Esprit. Alléluia. Que nous puissions chanter ce chant comme une prière. Je disais tout à l'heure que la prière que tu fais, peu importe qui tu es, si tu es enfant de Dieu, le Seigneur l'entend. Et que la prière du juste a une grande efficacité, nous dit la parole de Dieu. Et chacun de nous qui sommes au bénéfice du sang de Jésus sommes justes, justifiés par Dieu. Notre prière a une grande efficacité. Et ce que je demande, Dieu l'entend. Ce que tu demandes, Dieu l'entend. Alors j'aimerais que nous puissions chanter ce chant comme une prière. Ce chant nous aide à prier. Nous avons soif de plus. Souffle de Dieu, nous t'attendons. Nous avons soif de plus. Esprit de Dieu, souffle sur nous. Puissions le chanter comme une prière. Et vous savez que mes enfants, lorsqu'ils me demandent un truc, avec persévérance, et que des fois tellement ils me fatiguent, je leur donne, ils s'attendent à recevoir. C'est vrai ou pas? Des fois nous demandons, Seigneur, donne-moi! Et je m'en vais sans considérer que j'ai reçu quoi que ce soit. Ce que tu vas recevoir, c'est peut-être pas ce que tu attends. C'est peut-être pas palpable. Mais Dieu te donne, je crois, de tout mon cœur. Et ce qu'il te donne, c'est peut-être quelque chose que tu verras dans quelques heures, dans quelques jours, ou peut-être même que tu ne verras pas. Mais pour autant, Dieu aura été fidèle à sa parole. Alors que nous puissions dire, Seigneur, j'ai soif de plus. Esprit de Dieu, je t'invite à venir en moi. À venir me rafraîchir. Remplis-moi à nouveau. Redonne-moi ce que j'ai abandonné. Donne-moi ce dont j'ai besoin pour aller plus loin. Chantons ensemble.